Que dire? Ouais, j'étais très touché par tes paroles, Bruno, et je vous avoue que je suis un peu concerné par ce qu'il disait et inquiet en même temps parce que la semaine passée, je pense, dimanche, on était dans une assemblée chrétienne évangélique qui est finalement presque notre. Je fais partie de l'assemblée messianique de la Louvière à Bethichois. On a nos cultes le samedi, donc ça nous permet d'avoir une double portion et le dimanche. On aime visiter les assemblées là où l'Éternel nous envoie, et c'est toujours une bénédiction pour nous de recevoir de leur part. Et dimanche passé, on était dans cette assemblée là-bas. Finalement, c'est presque notre assemblée locale parce que c'est l'église la plus proche qui est de notre domicile. Et on y va beaucoup là-bas, et ils ont vraiment leur appel, leur don, la chose que Dieu a placée là. Ben c'est vraiment la louange et l'adoration. C'est toujours très explosif, toujours très vivant, vraiment énormément. Pourtant, moi, je suis plutôt terre à terre. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas trop dans les prodiges, signes, machins comme ça. Et pourtant, à chaque fois que j'étais là-bas, dans la louange, il y a des choses qui bougent. L'Éternel donne des révélations vraiment phénoménales. Et j'ai vraiment été au bénéfice de cette assemblée. Et la semaine passée, j'y étais. C'était vraiment différent. Il y avait un truc dans l'atmosphère, c'était carrément dans l'atmosphère, où il y a une porte pour rentrer dans la salle, et puis quand on est dans la salle, eh ben je rentrais dans la salle, pas moyen de louer et d'adorer, quoi. Pas moyen de louer et d'adorer. Et j'étais vraiment étonné, j'étais là, je fais, c'est plus la même église, qu'est-ce qui s'est passé, c'est les mêmes gens pourtant. Ouais. Et je sors de la pièce, qui est la salle des enfants, mais c'était vide parce que les enfants maintenant ils sont dans une plus grande classe à l'étage. Et donc c'est vide, mais c'est chouette, il y avait un baffle là. Pour ramener le son de la salle pour les enfants et pour la madame ou le monsieur de l'école du dimanche. Et quand j'étais là, tout de suite j'étais touché par le Saint-Esprit et ça remuait là, ici aux alentours de cette zone. Et on sait que c'est l'homme intérieur qui est là, c'est l'Esprit de Dieu et vraiment c'était rafraîchi et je pouvais adorer. Et c'est dingue, j'ai fait deux, trois fois l'expérience, je rentrais et c'était fini. Donc vraiment l'histoire d'un pas comme ça, quoi. Et chez moi, il y a un truc qui se passe. Et je dis, Seigneur, éclaire, ouvre les yeux. Et puis, à un certain moment, une personne dans la louange, l'Éternel lui donne une parole. Et cette parole que l'Éternel lui a donnée, c'est qu'il y avait vraiment un esprit de silence, un fardeau comme ça, qui était présent dans l'église. Et ça faisait une église taiseuse. Je ne sais pas trop si ça se dit, ouais. Comment? Qui se tait? Merci. C'était vraiment un fardeau comme ça, quelque chose de pesant. Et il y avait un ciel de plomb, il n'y avait pas de connexion avec. C'était vraiment bizarre. Et puis elle explique qu'ils sont dans ces dernières semaines, ces derniers mois, passés par différentes épreuves, qui fait qu'il y a cette chape de plomb en fait. Et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Et je dis, et ce qui m'a étonné, c'est que. Dans deux, trois assemblées comme ça que j'ai été, il y a ce truc-là pour le moment. Je ne sais pas si c'est l'air du temps ou si c'est le moment. Et dans ce que tu disais, Bruno, ça trouvait un écho en moi par rapport à quelque chose qui voudrait nous faire croire qu'on n'est rien et que finalement on n'est pas si important que ça et que finalement notre louange, elle est peut-être pas importante aux yeux de Dieu. Mais c'est faux. Et il y a un esprit de silence comme ça pour l'instant qui veut faire taire les croyants. Même les plus animés, les plus zélés, avec un zèle saint pour l'Éternel. Et vraiment, ça m'attriste. Et dans cet état de tristesse, j'ai questionné l'Éternel par rapport à cette semaine-là. Et puis l'Éternel nous a donné des choses concrètes, des signes, des paroles concrètes. Et puis ben là, ce matin, j'étais ici dans le temps de louange et je passais un bon temps de louange. Et je priais et je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui va pas, et je pense que c'est vraiment lié à ce que tu disais, à ces poteaux et à l'histoire de Gédéon. Et pendant que tu parlais, il y a beaucoup de choses qui. J'étais vraiment inspiré. J'ai vite pris un bic parce que sinon j'oublie la moitié. Et j'ai écrit, il faut pas laisser. Il faut pas laisser. C'est de manière générale que je dis ça. C'est pas ciblé pour cette église, mais c'est vraiment de manière générale. Après, je dirais quelque chose ciblé pour cette église, mais de manière générale, on a un gros souci parce que la familiarité de l'évangile nous a endormis. On nous a prêché, depuis qu'on est peut-être tout petit, pour ceux qui sont dans la foi depuis qu'ils sont tout petits, on nous a prêché et on est devenu familier avec l'évangile. et à la longue, ça nous endort. Rappelez-vous du premier jour où vous avez accepté le sang de Jésus sur votre ville, l'état quasiment euphorique dans lequel vous étiez. Moi, je me rappelle ce premier jour quand j'ai accepté le sang de Jésus sur ma vie. Et le jour où, par exemple, je me suis baptisé, que je suis sorti des eaux, il y avait quelque chose, un feu, c'était vraiment fort, quoi. Et puis, métro, boulot, dodo de la vie chrétienne, plus notre vie séculière, engendre qu'il y a vraiment ces scories qui viennent se mettre sur les charbons ardents. Et puis finalement, le charbon, il est tout noir, mais à l'intérieur, le cœur, il est rouge, mais le charbon, il est tout noir. Et on a besoin de prendre ce qu'on appelle un tisonnier, et on a besoin de mettre un gros coup dans le feu et de tout remuer, et là, toutes les scories, elles tombent au fond. Et puis là, on a une flamme extraordinaire qui reprend, quoi. Et j'ai l'impression que dans la nuit qu'on est en train de passer ici, en Occident, par rapport aux valeurs de la foi, je peux pas appeler ça valeur chrétienne ou valeur judaïque, les valeurs de la foi. On vit une nuit en Europe où tout ça est éteint, où il y a beaucoup de scories qui s'accumulent sur les charbons, en fait. Et il y a vraiment besoin d'un gros coup de tisonnier. Et la familiarité de l'Évangile, à cause de notre système métro-boulot-dodo, eh bien, parfois, elle nous endort, en fait. Et le monde nous a impacté d'une deuxième manière. C'était pas prévu, hein, ce que je vous partage là, c'est ce que Bruno m'a inspiré dans ses paroles. Il y a un deuxième problème qu'on va traiter aussi pendant le sujet, justement. C'est que le monde a tout organisé de façon protocolaire. Notre vie est un protocole qui a été réglé par le monde. Et c'est vraiment pas évident de sortir de ce protocole. Et pour les gens les plus stressés, quand ils sortent de ce protocole, ben, toute leur journée est foutue, il n'y a plus rien qui va, en fait. Et cet aspect protocolaire dans lequel on vit, où c'est de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça, je mange, je me douche, je fais ceci, je fais cela, attention, j'ai pas une minute de plus à perdre. Et finalement, tous ces protocoles, ce système protocolaire du monde, avec le métro boulot dodo et X heures de travail par semaine, il est rentré dans l'Église. Et on peut faire de notre dimanche un dimanche protocolaire. C'est-à-dire, voilà, dans cette semaine, j'ai ma liste de choses à faire, to do, et ok, je peux mettre un petit dimanche, check, c'est fait, je suis en paix. Et la semaine prochaine, je retourne, ainsi je fais ma petite BA et je suis tranquille avec l'Éternel. Et on est en bon terme, il me bénit, je vais à l'église, tout va bien, gagnant-gagnant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on vient pour faire une louange protocolaire, si vous êtes venu pour écouter un enseignement protocolaire, si après on va avoir une agape protocolaire, c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans la louange, c'est pas que dans la prêche, c'est dans tous les domaines. Si on veut une communion fraternelle protocolaire, ben y a rien qui va se passer entre nous, quoi. Et on va rester impassible, endormi, avec ces scories qui empêchent que la flamme vraiment puisse redémarrer. Et dans ce que Bruno disait avec l'histoire de Gédéon, oui, c'est vrai, il y a vraiment cet esprit aujourd'hui sur l'Église qui veut la rendre taiseuse, qui veut éteindre, qui veut vous faire croire à chacun d'entre vous, finalement, que vous n'êtes pas tellement important, que vous n'êtes pas, que ça change rien, finalement, que vous soyez au culte ou pas, et ainsi de suite. Et de cette manière, et avec ce protocole mondain ce modèle du monde qui est rentré, je pense que le monde, et c'est vraiment une révélation que j'avais avec ces poteaux aussi d'idoles et ces faux noms de Dieu et ainsi de suite, je pense que le monde a pris possession de l'Église. Et ils ont fait tout du grand cinéma pour faire non, il faut un clivage entre la politique et l'Église. Et à cause de cette image-là, on se dit, ah ben ça va, le monde ne veut pas de l'Église, donc nous, dans nos églises, on va pouvoir vivre notre truc. Mais je pense que finalement, d'une manière infiltrée et camouflée, le monde a pris possession de l'Église. Il se dit, on va les mettre dans leur salle. Ils vont être dans leur salle, comme ça, ils n'auront pas trop à l'extérieur, ils vont pas trop nous embêter. Donc on va leur laisser un certain confort. On va pas leur interdire de prêcher l'Évangile. Ils vont pouvoir le faire entre eux. Comme ça, nous, ça nous dérangera pas trop. Et puis, ainsi, on ne sera pas dérangé. Et qui plus est, ils ont été vraiment rusés, je pense. Et ils ont envoyé des loups déguisés en agneaux en mission parmi ceux qui nous ont précédés. Je pense qu'il y en a eu peut-être quelques-uns parmi ce qu'on peut appeler les pères de la foi, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a eu quelques loups déguisés en agneaux dans tous les temps et qui finalement, eux, avaient pour mission de dire on va leur faire un système finalement religieux bien castrant, comme ça ils vont pas vraiment produire quelque chose. Je sais plus ce que j'ai écrit. Et ils vont faire un système religieux bien castrant avec des apparences de Jésus, mais au fond, ils seront loin de la réalité de Christ. Et ils ont insufflé ça dans l'Église depuis les balbutiements de l'Église catholique. C'était déjà pour moi la mission de Constantin. Voilà, dans les années 300, ça a commencé. Et là, on peut voir que la puissance dans le corps du Christ, si vous faites topo historique, vous pouvez voir que la puissance dans le corps du Christ, elle a commencé à... Même Paul et Pierre, à un certain moment, ils en parlent. Déjà, en l'an 50-60, Paul et Pierre, ils en parlent. Paul, il dira, tiens, j'étais à tel endroit et j'ai dû laisser un estropié. Alors que avant, Pierre, il pouvait toucher cette feuille, il disait, tiens, en voilà, et ce sera ça. Quand il va toucher cette feuille, cette personne là-bas sera guérie. Et la personne guérissait avec un bout de tissu, avec son ombre qui passait sur un malade. Le mec, il se levait, il était plus malade. Où est la puissance du corps du Christ? Et je pense que là, ils ont vraiment, et c'est pas des accusations, et c'est pas un jugement que je porte, ni sur vous, ni sur moi-même, parce que sinon je devrais me juger en premier, parce que je suis au milieu de vous, et je suis content d'être là aujourd'hui, et peu importe dans l'état dans lequel on est, je suis vraiment ravi d'être avec vous, et on était content d'être là hier soir, et on a été bénis, et pas après pas, justement, on veut que cette flamme, elle reprenne, et on fait ce qu'il faut, du mieux qu'on peut. Alors oui, on n'est pas parfait, ça c'est sûr. Mais voilà, on est loin de la réalité. Et de qui Yeshua, de qui Jésus est et de ce qu'il a fait, on est loin. Et je pense que le monde, d'une certaine manière, a pris possession de l'Église. Et je pense qu'il faut vraiment demander ces poteaux d'Akhéra, d'Astarté, de Baal, il faut vraiment les raser, les faire tomber. Et vous savez, c'est ça le gros souci du peuple au désert. Il y a une réalité exceptionnelle qui se tient sur le sommet du mont Sinaï. L'Éternel en personne qui est présent. C'est pas juste un feu qui est là vide et que Dieu il est au sommet des cieux et qui parle avec une grosse voix. Moi, je vous dis que vous devez faire ceci. Non, non, Dieu il est là en personne. La présence de l'Éternel au sommet du mont Sinaï. Et le sommet du mont Sinaï il est là, mais eux ils ont fait un veau d'or. Et eux ils adorent un veau d'or. Et ils ont écrit, c'est pas un faux Dieu, hein. Pour eux c'est une représentation de Dieu. Ils disent pas demain ce sera une fête en l'honneur de Happy ou je sais pas qui. Ils disent demain ce sera une fête en l'honneur d'Hachem, Yud-Hevavé, le tétragramme saint. Donc ils ont fait une statue, ils ont fait un veau d'or et ils ont écrit Yud-Hevavé là-dessus, l'Éternel. Et le monde nous avait fait la même chose finalement. Ils nous ont placé des statues en bois dans nos églises. Des poteaux de bois où ils ont écrit le nom de Jésus dessus et finalement nous on est là, ben il y a le nom de Jésus dessus, c'est ok, c'est bon. Et finalement on se rend pas compte, mais on est dos tourné au mont Sinaï à la présence de Dieu et on est là devant un poteau en bois ou un vaudeur, appelez-le comme vous voulez. Et maintenant il y a vraiment cet esprit de silence qui est en train de rentrer dans l'Église à cause de la nuit qu'on connaît. Et encore une fois, vous en pouvez rien, on n'en peut rien. C'est les politiciens, c'est le monde qui décide de tout ça. On est impuissant, donc ce qui vous prouve vraiment qu'on n'est pas vraiment en démocratie. Mais on est impuissant face à ça. Et je voulais vraiment vous encourager, vraiment me joindre à Bruno dans ses paroles qu'il avait à cœur, à rechercher vraiment un second souffle, à ne pas laisser le système protocolaire rentrer dans l'Église et à secouer, prendre le tisonnier et à secouer vraiment ces charbons pour que la flamme de l'Esprit reprenne. C'était simplement ce que j'avais à cœur là, je me tenais là au fond et pendant la louange j'étais touché et je disais mais Seigneur, allez, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais vraiment impacté. L'Éternel, c'est les paroles qui m'a donné protocole, familiarité de l'Évangile qui endort, l'esprit de silence qui vraiment lutte contre l'Église en ce moment. Et vous savez, l'esprit de silence, il suffit pas de dire « je vais crier pour qui ». Non, il y a des choses qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Et notre combat contre les autorités spirituelles, les mauvaises dominations spirituelles, territoriales, liées à des nations qui essayent de prendre possession de l'Église, elle se chasse pas par une bonne volonté ou une bonne prêche ou une bonne louange. Il y a des choses qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Et ça, c'est vraiment une arme extraordinaire. Et c'est ainsi qu'en esprit, on combat contre. Et ça m'a étonné, vendredi, je parlais avec un frère et il me disait qu'il rencontrait une certaine situation dans sa vie difficile. Et je lui disais, ah mais tu sais, à telle époque, j'avais rencontré quelque chose de similaire et le Saint-Esprit met ce conseil à cœur pour toi. Jeûne, prie pas, loue pas, fais pas des bonnes actions pour ça. Jeûne contre. Je n'ai pas dit prie contre, je dis jeûne contre. Et rien que le sacrifice, parce que quand on jeûne, c'est notre chair qui est sacrifiée. Et rien que le sacrifice de chair que tu vas faire là aura le pouvoir de faire dégager ce truc devant toi qui s'oppose. Et c'est vraiment ce conseil que j'ai envie de vous laisser. Après, vous voyez entre vous. Et le jeûne et la prière. Il y a des choses qui ne se chassent, qui ne se guérissent, qui ne se raniment que par le jeûne et la prière. Voilà. Merci Bruno, en tout cas, pour ta parole sur Gédéon. Ça m'a, même moi, personnellement, ça m'a édifié. Vraiment. Alors, aujourd'hui, en janvier, j'étais venu pour parler de la restauration du principe du Lévitique. On va continuer un peu cette série. Le message, c'est purifiez-vous et sanctifiez-vous davantage. Pourquoi vouloir restaurer un livre qu'on pourrait croire mort ou oublié difficile de compréhension? Pourquoi il est utile? Eh bien, parce que c'est un livre qui nous apprend à nous purifier et à nous sanctifier davantage. C'était la suite directe du séminaire que j'avais eu l'opportunité de faire ici avec ceux qui étaient là. Le séminaire qui était avant l'arrivée du jour de l'Éternel. La conclusion de ce séminaire, avec des signes clairs qui ont été placés dans les cieux, c'était vraiment un appel de Yeshua, de Jésus. J'emploie le nom de Yeshua, j'imagine que tout le monde sait que c'est Jésus. Donc on parle de la même personne. Avec la conclusion qui était « Sortez de Babylone ». Sortez du monde, mon peuple. Sortez sans rien toucher d'impur. Ne participez pas à son système. Ne buvez pas à sa coupe. Et j'ai dit, OK, Seigneur, c'était un beau séminaire. Génial. C'était une belle conclusion. Waouh. Avec Jésus qui nous promet. J'avais vraiment été touché par, impacté à l'époque. Je serai avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il dit, je m'en vais. Et ces disciples sont là, ils tremblent, à mon avis. Il fait, mais vous inquiétez pas. Je serai avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je vous envoie mon esprit. Et là, donc on est rassuré. Et je dis, mais, OK, c'est un beau message, mais Seigneur, si tu me donnes maintenant un petit mode opératoire pour concrètement comment sortir de Babylone, je dirais pas non, je vais pas cracher dessus, quoi. Et puis, notre père, vous demandez du pain à votre père, il vous a déjà donné un caillou? Non, hein. Donc, je pense que notre père qui est aux cieux, c'est exactement la même chose. Je lui ai demandé du pain, il m'a pas donné un caillou et il m'a orienté, il m'a vraiment travaillé le cœur, il m'a dit, la réponse que tu attends, c'est le livre du Lévitique. Alors je tombe un peu de haut, je me dis, ah comment c'est possible? Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vraiment le message. Sortir de Babylone, spirituellement, un jour ce sera peut-être, un jour ce sera physiquement, alors ça c'est clair, mais pour l'instant c'est spirituellement, de cet esprit du monde. Pour triompher de l'esprit du monde, il faut vivre comme des sacrificateurs. Et des vrais sacrificateurs, purifiés de l'intérieur, pas juste des apparences de sainteté. Ça ne sert à rien, parce que Jésus, c'est une épée à double tranchant qui pénètre dans nos corps jusqu'à la séparation de la moelle et de l'os. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où Jésus est capable de pénétrer dans votre être intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur. Et c'est ça, c'est selon l'intérieur de la coupe qui va juger, pas l'extérieur de la coupe. Et les vrais lévites, les vrais sacrificateurs, c'est pas ceux qui en ont les apparences ou qui sont les fils d'Élie, mais qui détournent les sacrifices et qui détournent les femmes qui apportent des sacrifices pour avoir de la débauche sexuelle avec elles. Ça, c'est pas les vrais sacrificateurs. Le vrai sacrificateur, c'était le petit Samuel, fils de Hana, fils de Anne. Et ça, c'était un vrai sacrificateur. Pourquoi? Parce que sa mère, dès son plus jeune âge, elle l'avait consacré. Et dès son plus jeune âge, la coupe à l'intérieur a été maintenue pure et sainte. Et c'est lui qui n'avait aucun droit, selon la lettre de la loi, parce qu'il en faut une, il faut une constitution Après, à chaque fois que vous vous faites 132, il n'y a pas quelqu'un qui vous arrête, mais pourtant la Constitution, elle est là pour essayer de cadrer un maximum. Et la loi, elle avait dit, des descendants d'Aaron uniquement seront sacrificateurs du Dieu très haut. Et pourtant, il y a ce petit garçon qui, par vœu de consécration, a atteint le niveau de sacrificature. Et celui qui est le vrai sacrificateur, le vrai prophète d'Israël, c'est pas les fils et Élie lui-même qui a laissé ses fils faire n'importe quoi, c'est le petit Samuel. Et c'est lui qui a eu l'honneur de oindre les rois d'Israël. Donc pour vous dire quel doigt, le mec c'était la main de Dieu qui a oint. Et ça c'est un vrai sacrificateur. Et c'est de ces gens-là qu'on doit s'inspirer. Alors l'intérieur de la coupe purifiée, pas que les apparences. Chérie, tu peux prendre le PC et préparer pour qu'on puisse diffuser après, quand ce sera le bon moment. Alors, le livre du Lévitique, c'est un livre très instructif. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la consécration, justement, en tant que sacrificateur, les sacrifices que l'on offre à Dieu, être rituellement pur ou impur, et les principes d'une vie sainte, tout ça est inscrit dans le livre du Lévitique. Et c'est très pratique, c'est très concret, ça permet au monde de sortir de nous. On est sorti du monde, mais est-ce que le monde est sorti de nous? Il y a des commentateurs qui ont dit quelque chose de très brillant, qui m'ont inspiré à ce que je vous partage là. Ils ont dit, Moïse, faire sortir le peuple d'Égypte, c'était pas ça le plus dur. Pourtant, je sais pas, c'est les 10 plaies, c'est les jugements, c'est Moïse, 80 années de sa vie, 40 ans prince d'Égypte, 40 ans au désert, à s'occuper d'un troupeau, appelé par le buisson, par la personne qui se tient dans le buisson ardent, machin, tchic-tchac. Les prodiges, les signes, ça c'était pas le plus dur. Sortir le pharaon, passer au travers de la mer Rouge, ça c'était pas le plus dur. Mais je sais pas si vous imaginez. Le plus dur c'était faire sortir l'Égypte du peuple. L'Égypte qui était rentrée dans le peuple, le plus dur c'était de la faire sortir. Et c'est exactement la même chose avec nous dans le monde. On est sorti du monde, on a accepté le sang de l'agneau, c'est pas le plus dur. Alors c'est l'étape primordiale, l'étape numéro une, sans ça rien d'autre ne peut arriver. Mais c'est pas le plus dur d'accepter le sang de Jésus. Passer par les eaux du baptême, c'est pas très difficile. On organise ça, on a un petit cours préparatoire. On se plonge, on ressort. Mais après, c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est là qu'il est. Est-ce que le monde est sorti de nous? Et le livre des sacrificateurs, je vais pas l'appeler livre du Lévitique, le livre des sacrificateurs, c'est justement ce mode d'emploi qui va permettre au monde, à la culture du monde, à la forme cultuelle du monde, de sortir de nous et de naître de nouveau avec une nouvelle culture, avec un nouveau culte en l'honneur de l'Éternel dans tous les aspects de notre vie. Et de naître, c'est ça la nouvelle naissance, c'est arriver à changer de cette culture. Si votre culture, on va prendre les Suisses, il n'y a pas de Suisses ? Non, ça, je peux critiquer, on y va. Non, je rigole. Si la culture suite, c'est d'être neutre, ben, l'Éternel a dit, moi, je déteste les neutres. J'aime pas les gens qui sont tièdes. J'aime les froids, enfin, ils auront leur jugement, et les bouillants. Mais je veux pas des gens entre les deux. Je veux noir ou blanc. Je veux pas du gris. Et les Suisses, ben, ils sont, voilà. Alors, j'aurais pu citer les Belges ou les Italiens ou les Français avec chacun leur défauts. Mais en attendant, voilà, c'est ça. Et le Suisse qui va rencontrer Jésus dans sa vie, eh bien, il sera plus neutre. Ils sont tellement neutres que même ils parlent lentement, les Suisses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ils sont tellement neutres qu'ils ne veulent pas parler ni trop vite ni trop lent. Donc, c'est juste... Mais le mec qui va rencontrer... Le Suisse qui va rencontrer Jésus, il ne sera plus jamais neutre de sa vie. Ça va devenir un zélé pour l'Éternel. Et devenir un bon disciple de Jésus, et ainsi de suite. Il ne peut plus être neutre. Ou sinon, c'est une contrainte dans sa culture terrestre, c'est une contrainte à sa culture céleste qui veut s'instaurer en lui. Parce que le livre du Lévitique, c'est la volonté du Père qui était aux cieux, qui était donnée à ses enfants sur la terre, afin de vivre selon une autre culture. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui est primordial dans le livre du Lévitique. Ça permet de faire sortir le monde de nous. Alors, ce livre joue, et ces révélations qui sont dans ce livre, la parole de Dieu qui nous a été ramenée dans ce livre, parce que c'est une parole audible de Dieu qui a été écrite par Moïse, qui est parvenue jusqu'à nous, joue un rôle central dans la vie physique et spirituelle du peuple de Dieu. Et quand je suis venu en janvier vous parler de ça, une question qui avait été posée, c'est pouvons-nous nous passer de ce standard de sainteté à tous les niveaux ? Et hier soir, on en a particulièrement parlé au niveau du couple, vivre dans une intégrité sexuelle, une intégrité relationnelle au sein de nos couples. Et on ne peut pas se passer de standards de sainteté dans nos couples. Et ce matin, on va en parler de manière générale, vivre comme un sacrificateur. Vivre comme un sacrificateur. Alors, si vous regardez, et c'est là où je rentre dans le vif du sujet après ce petit récapitulatif, si vous regardez les Écritures, les Bereshit, c'est le livre de la Genèse, Shemot, c'est le livre de l'Exode, et Vayikra, c'est le livre du Lévitique. Alors, il n'y a pas de correspondance entre les noms. Quand on a écrit, quand la Bible a été traduite plus tard, ils ont adapté les noms par rapport au livre. Et oui, effectivement, Bereshit, Genèse, c'est le début. Par exemple, Exode, c'est parce que le livre de l'Exode nous amène le récit de la sortie d'Égypte. Pourtant, en hébreu, ça s'appelle les noms. Shemot, c'est les noms. Et finalement, on a le livre du Vayikra, qui est le Lévitique. Pourquoi ils ont appelé ça Lévitique ? Parce que c'est le livre des sacrificateurs, qui était de la famille de Lévi. Mais Vayikra, en hébreu, ça signifie appeler quelqu'un. Et j'aime, donc, en hébreu, on dirait au commencement, les noms, l'Éternel appelle. Au commencement, les noms, il appelle. Et ce qui est magnifique, c'est que, selon notre conception à nous, on dirait à la Genèse, un exode pour les sacrificateurs. Une sortie pour les sacrificateurs, au commencement. Et le vrai commencement, c'est pas quand, excusez-moi, mais c'est pas quand Dieu il a créé les cieux et la terre. Le vrai commencement, c'est quand les sacrificateurs du peuple de Dieu sont sortis d'Égypte. Parce que c'est ce qui a initié quelque chose d'extraordinaire pour l'avenue du Messie et dans notre relation avec Yeshua. Et j'aime bien ces titres, ces deux titres en hébreu et français qui sont très complémentaires. On pourrait les voir comme étant opposés ou déclasser l'un par rapport à l'autre, peu importe. On pourrait en choisir par ordre de pertinence. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'il y a une double révélation dans ces titres en hébreu et en français. Alors, ça nous donne une révélation toute particulière. Il appelle, en hébreu, les sacrificateurs en français. Et ça nous donne une révélation toute particulière, une révélation pour moi de ceux qui ont été appelés. C'est une révélation d'être appelé. Par notre nom, c'est une révélation d'avoir été appelé. Et à suivre Jésus. Et il y a une révélation toute particulière à être un sacrificateur dans ce domaine de vie. Et je pense que Pierre, il l'a bien compris. Pierre, il a compris cette double révélation. Et dans un commentaire qu'il fait, il a contracté cette double révélation dans un seul et même passage, dans un seul et même verset. Et ce n'est pas anodin qu'il l'ait fait. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, la révélation des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé. Et en hébreu, il aura employé le mot vaïkra, le mot qui est le nom du livre du Lévitique, de celui qui vous a appelé, vaïkra, à passer des ténèbres à son admirable lumière. Une communauté de rois-prêtres, celui qui vous a appelé. Si Pierre y contracte ces deux choses, ces deux révélations ensemble, c'est parce qu'il a compris que les nations ont été appelées à être des sacrificateurs. Amen. Pierre va lier clairement le fait d'avoir été appelé à suivre Jésus au sacerdoce. Et ça, c'est extraordinaire. D'après ce passage, on pourrait presque penser que l'appel de sacrificateur va prendre, d'après le commentaire de Pierre, on est dans la Nouvelle Alliance. Et l'appel de sacrificateur, on pourrait presque penser qu'il prend tout son sens, pas quand ils étaient dans le désert, dans Exode 19, mais il prend tout son sens avec la Nouvelle Alliance. Et je trouve que penser ça, c'est pas forcément idiot quand on sait qu'on nous a dit c'était l'ombre d'une réalité supérieure qui doit venir. Mais quand vous pouvez connaître, s'il y a une personne qui arrive dans votre dos, que vous voyez son ombre arriver, quand vous voyez l'ombre arriver, si vous savez dire qui c'est parce que vous êtes vraiment intime avec cette personne. C'est parce que vous la connaissez très très bien. Rien que son ombre, vous savez que ça annonce qu'il arrive en fait. Mais quand la réalité elle est là, L'ombre, vous ne pouvez pas la toucher. Si c'est votre petit chéri, vous ne pouvez pas l'embrasser ou quoi que ce soit. Quand la réalité, elle est là, c'est différent. C'est une réalité qui est supérieure. Et j'ai l'impression que cette histoire de sacerdoce, il y a une ombre qui nous a été décrite, mais puis il y a une réalité dans la nouvelle alliance qui doit trouver son accomplissement. Et on va ajouter à ce passage de Pierre un passage de l'Apocalypse, un passage très célèbre. Et là, c'est plus simplement penser que... Non, là, ça va être certain. Avec Apocalypse chapitre 1, verset 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc ici, à celui qui nous a aimés, Jésus, qui est mort, qui a versé son sang pour nous laver de nos péchés, il a fait de nous des rois. Il y a d'autres traductions qu'il a fait, il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus fait de nous des sacrificateurs. Le sang qui a été versé pour nous accomplit tellement de choses. Alors celle qu'on a le plus compris jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est son sang, le sang qu'il a versé nous pardonne de nos péchés. Mais ce n'est pas la seule et unique révélation qui est au travers de Jésus. C'est la primordiale, la première étape, sans ça rien ne peut se passer. Sans ce sang, on ne peut pas être agréé par le Père. Si vous n'êtes pas agréé par le Père, je ne sais pas comment vous allez faire pour être sacrificateur. Donc c'est la révélation la plus importante, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle son sang a été versé. Et personnellement, ça n'engage que moi, on a commencé au bon endroit, le pardon des péchés, mais ma prière en ce jour, c'est dire « Seigneur Jésus, Seigneur Yeshua, je voudrais, si tu m'en fais la grâce, connaître tous les aspects du pourquoi tu as versé ton sang. Parce que ton sang est si précieux que je n'ai pas envie de négliger la moindre chose que tu as accomplie au travers de ton sang qui a coulé pour moi. Tu m'as pardonné de mes péchés, tu m'as réconcilié avec le Père, merci Seigneur. Mais derrière, il y a plein d'autres choses qui doivent venir et qui vont vous faire monter spirituellement vers l'Éternel, grandir spirituellement, devenir des hommes et des femmes accomplis en Christ, comme Paul il nous le décrit. Quand on rentre dans les plusieurs dimensions de pourquoi Jésus a versé son sang sur la croix. Et moi, je n'ai pas envie de négliger ça. Et Apocalypse et Pierre nous révèlent que c'est pour être des sacrificateurs, vivre comme des Lévites, avec l'intérieur de la coupe purifiée. Alors, si vous comprenez cette révélation, et j'espère que vous la comprenez parce que c'est là-dessus que je vais continuer de développer, y a-t-il des questions déjà à ce moment-ci? Est-ce que vous avez compris cette révélation? Est-ce que vous voyez vers quoi on va? Ok, super. Et que vous vous sentez concerné, je ne sais pas si les paroles que je vous ai partagées trouvent un écho dans votre cœur, eh bien, je peux vous dire que le livre des sacrificateurs a été écrit pour vous. Le livre des appelés, du Vaïkra, le livre des Lévites. Vous êtes des Lévites, même si votre nom de famille, ce n'est pas Lévi ou Cohen. Vous êtes des sacrificateurs par le sang de Jésus. Et ce livre a été écrit pour vous. Et ce livre est le mode d'emploi de sortir de Babylone. Ce livre est un moyen de plus être neutre, mais de choisir une culture, la culture céleste, la culture qui viendra s'établir quand le royaume des cieux viendra sur terre. C'est cette culture qui viendra être une culture mondiale. Et c'est pour ça aujourd'hui que, forcément, qu'est-ce que le monde fait? Multiculturalité. On essaye de faire une seule et même culture où tout le monde il est beau, il est gentil, Bouddha, Allah, Elohim, parce qu'il y a des juifs qui se lient à ça, et puis il y a des chrétiens qui se lient à ça. Je ne sais pas, je vous ai déjà vu coexiste, où ils sont tous là ensemble, ils disent « Oh ben finalement, tant pis pour nos différences, tout ce qui nous unit c'est l'amour. » Œcuménisme version X. Alors, on ne peut pas lier Bouddha et Yeshua, on ne peut pas lier Mohammed et Jésus, on ne peut pas les lier. C'est un affront direct qu'on fait à l'Éternel, au Fils de Dieu, au Fils unique de Dieu. Si vous liez le Fils unique de Dieu à ces choses-là, vous le souillez. S'il est unique, c'est parce qu'il a été unique et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre et qu'il est comparable et associable à personne. Alors, notre corps, donc le livre des sacrificateurs a été écrit pour nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc à l'intérieur, dans notre cœur, comme Yeshua nous a recommandé, si vos pensées, ne fût-ce que vos pensées, sont impures, votre temple est impur. Donc, on doit vivre comme des sacrificateurs. Nous vivons, je vais arrêter de parler au futur ou au passé, nous vivons parce que je veux proclamer que nous vivons, parce que c'est aussi une partie de la réalité, nous vivons comme des sacrificateurs. Nous vivons séparés du péché. Il y a des choses à parfaire, oui, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été accomplies. Et je pense qu'on a parfois, malheureusement, on est trop négatif, et on voit tous les, parfois les détails qui restent à changer, et on oublie l'accomplissement qu'il y a eu derrière. C'est un gros problème de faire ça, parce que ça entraîne un négativisme, un certain négativisme. Il faut se dire, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies, mais je ne veux pas me contenter d'être accompli à 80%. Je ne veux pas me contenter d'être accompli à 99%. Moi, je veux le 100% parce que Jésus, il a donné son 100% pour moi. 100%. Beau jeu de mots. Alors, ce livre est le meilleur mode d'emploi contre la souillure de Babylone l'impure, contre la souillure du monde. Si notre objectif, si notre désir, c'est de vivre culturellement, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé d'un culte protocolaire ou un culte inculte. Si notre désir, c'est de vivre culturellement et culturellement pas neutre, comme il convient, sur terre devant Dieu, eh bien ce livre, le livre du Lévitique, devrait vous passionner. Ce livre va vous passionner. Moi, il m'a passionné. Mitch, hier, j'ai bien aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je commençais à étudier le livre du Lévitique. Je l'ai lu pas une fois, mais deux fois, parce que c'est passionnant. Et je trouve qu'il a raison, Mitch. Et je pense que là, l'Éternel, il veut vraiment mettre sur ton cœur cet appel de sacrificateur aujourd'hui en disant, Mitch, si t'as été, je te dis vraiment de la part de Dieu, si tu as été passionné par la lecture de ce livre, c'est parce qu'il y a un appel de sacrificateur sur ta vie. Et le contenu, ben on n'est plus très familier avec ce livre. Hein, forcément, c'est un livre un peu oublié, difficile à lire, long, rébarbatif, sacrifice, blablabla. Mais bon, il y a un contenu extraordinaire à en sortir. Et c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. Mais moi, je peux vous proposer aujourd'hui un résumé. J'ai étudié ce livre pendant 6 années d'affilée. Et aujourd'hui, je vous propose un résumé aussi qui... Je préparais ce message pour aujourd'hui et j'avais commencé un truc génial, mais vraiment un truc génial. Non, c'était tellement bien qu'on peut même le dire au pire. C'était un truc génial. j'avais commencé sur les sacrifices et ça démontrait comment Yeshua, quand il dit « J'ai accompli la loi ». Et par là, on voyait dans les sacrifices comment Jésus a parfaitement accompli tous les sacrifices qui étaient la volonté du Père et qui ont été... C'était incroyable. Et puis l'Éternel, il me disait « Non, c'est pas ça que tu dois leur partager dimanche ». Je fais « Mais allez, c'est tellement bien, j'ai presque fini, on est déjà mercredi et j'ai pas le temps dans le reste de la semaine, je vais me préparer pour dimanche ». Et le Seigneur, il fait « Non, c'est pas ça, arrête, cherche pas midi à 14h, c'est pas ça. Alors tu continues de perdre ton temps et puis ce sera médiocre, ou alors tu m'écoutes et j'ai dit « Ça va, c'est bon, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à faire un peu de louange, j'ai prié. J'ai dit « Seigneur, je sais que tu vas me donner la paix, que tu vas encore me dégager quelques heures pour que je puisse... » Et effectivement, j'ai été guidé par Dieu comme ça. Et je suis tombé sur une vidéo qui m'a permis de faire cette connexion. Je vous recommande très vivement à tous les vidéos sur YouTube, The Bible Project. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est extraordinaire. C'est brillant le travail qu'ils ont fait. Et je me suis inspiré de ce qu'ils ont fait pour vous présenter ce résumé du livre du Lévitique. Je l'ai étudié pendant 6 longues années, très bénissant. Faut réaliser, quand on lit pour la première fois le livre de Lévitique, on a un peu l'impression que c'est un ramassis de choses, d'ordonnances, de trucs que Dieu il a dit, qu'il a secoué la boîte et puis qu'il a dit « Voilà, s'il vous plaît !» Et puis t'es là, tu lis les trucs, tu comprends rien, tu fais « Mais c'est pas ordonné ce document, c'est quoi ? C'est pas une histoire, c'est vraiment bizarre. » Eh bien non, je vous assure, c'est pas ça. C'est un document qui a été extrêmement bien ordonné. Seulement, comme on en a fait des codex... Donc, c'est-à-dire page par page, chapitre, machin, tchic-tchac, on ne trouve plus l'axe central dans ce livre. Parce que ce livre, quand vous comprenez l'axe central, il est super bien ordonné, en fait. Et c'est un peu triste, hein. Bon, le codex, bon, maintenant c'est facile parce que je me vois mal me trinqueballer toujours avec un rouleau comme ça pour aller à un culte. Mais le rouleau du livre du Lévitique a même cette structure en elle-même qui est vraiment très particulière, qui nous fait comprendre l'axe central dans le livre. Et forcément, on a plus facile à. Mais bon, merci Seigneur. Il m'a mis à cœur d'étudier ce livre pendant 6 ans et aujourd'hui je suis apte à le mettre à votre bénéfice et c'est une grande joie pour moi d'avoir sacrifié ces 6 années à ça. Donc Il y a un axe central qui est magnifique, extraordinaire, qui nous parle bien évidemment du sacrifice de ce que Yeshua a accompli. Je vais vous montrer, on peut diffuser le schéma du livre du Lévitique. Alors, il y a un axe central. Un axe central, ça veut dire qu'à gauche et à droite, voilà. Donc, vous voyez, il y a un axe central. J'ai mis des flèches qui vont de gauche à droite. C'est l'axe. L'axe central est lié au chapitre 16 et 17 du livre. J'espère que vous savez lire, que c'est pas trop petit. Chapitre 16 et 17 du livre, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour des expiations. Donc, c'est la fête du grand pardon. Une fête annuelle, une fête très importante parce que c'est la seule fête, la seule fois dans l'année où pendant quelques secondes, le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint, devant la présence de l'Éternel, déposer le sang du sacrifice et ressortir. C'est la seule fois. D'ailleurs, il y a un miracle extraordinaire, c'est que ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré par la mort et la résurrection de Jésus. Donc là, on voit vraiment cet axe central, il y a un accomplissement en Jésus qui n'est pas comme avant. Il y a quelque chose de supérieur. Il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc les sacrificateurs qui étaient invités à être dans le lieu saint, ben, quand ils sont dans le lieu saint, ils sont déjà dans le lieu très saint. Et ça, c'est vraiment extraordinaire ce que Yeshua il a opéré. Aucun souverain sacrificateur lié à la chair humaine normale ne pouvait accomplir ça. Et vous voyez, ça c'est l'axe central du livre du Lévitique. Extraordinaire, chapitre 16 et 17. Et puis, quand on regarde ce chapitre 16 et 17, de part et d'autre, un peu comme en miroir, on a les équivalents l'un de l'autre. Et les chapitres 1 à 7 du livre du Lévitique nous parlent des sacrifices rituels. Comment rituellement amener un sacrifice. 5 types de sacrifices. Après, je vais un peu développer les contenus de ces 7 chapitres, brièvement, pour vous mettre l'eau à la bouche. Je ne vais pas vous lire l'entièreté, je ne vais pas tout vous raconter, chercher un peu, quoi. Chapitre 1 à 7, sacrifice rituel. On a en miroir à ça, qui passe par l'axe central du sacrifice du Yom Kippour, les chapitres 23 à 25, qui sont les fêtes rituelles. Les 7 fêtes de l'Éternel, les fêtes rituelles. Ensuite, du chapitre 8, je reviens colonne de gauche, chapitre 8 à 10, on lit l'investiture des sacrificateurs. Donc Moïse, qui jusqu'à ce moment-là jouait le rôle de sacrificateur et de souverain sacrificateur, bon, il était prophète, mais à ce moment-là, il va remettre son onction de sacrificature de personne qui s'entretient en face à face avec l'Éternel sur Aaron et ses 4 fils. Ok, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire de Nadav et Avihu, il meurt au chapitre 10. Il y a une explication, on ne va pas rentrer dans tous ces détails maintenant. En miroir de ça, au chapitre 21 à 22, sans grosse surprise, c'est les conditions requises pour être sacrificateur. Donc, c'était quelqu'un qui devait être pur dans sa lignée, il ne pouvait pas être marié à une femme qui avait déjà été mariée, et il pouvait pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'était les conditions requises pour être sacrificateur, en face de l'investiture des sacrificateurs. Ce sont les liens thématiques de ce chapitre. Au chapitre 11 à 15, on nous parle de la pureté rituelle. Alors, généralement, nous on ne connaît pas cette chose, parce qu'encore une fois c'est repris dans le livre du Lévitique, pas trop ailleurs. Mais par exemple, quel miracle Jésus accomplit quand il purifie la femme qui a la perte de sang, ou les lépreux qui sont en dehors de la ville. Eh bien, il faut se rendre compte que ces gens, par leur condition d'impureté, ils étaient chassés de la ville, chassés du camp. Et du coup, ils n'avaient plus de vie sociale, ils ne pouvaient plus se présenter au temple, donc plus de vie et de relation avec Dieu. Et quand Jésus vient guérir ces personnes, eh bien, c'est bien pour les réintégrer pleinement dans une vie sociale et spirituelle. Et donc ça, c'est tout le miracle. Et justement, cet état de pureté ou impureté rituelle est repris dans le chapitre 11 à 15 du livre du Lévitique. Et en face de ça, chapitre 18 à 20, nous avons la pureté morale. Pureté morale. Être moralement pur. Oui, c'est possible. On va en toucher un mot tout de suite. Et donc, vous voyez à cette structure, ou dans le livre du Lévitique, si on fait des analyses thématiques de ce qui nous est ramené, eh bien, on peut vraiment les mettre en miroir comme ça, avec un axe central extraordinaire, qui est le jour du Yom Kippour. Donc, vous voyez, et si Dieu, il a secoué une boîte et qu'il a tout mis dedans, ben, c'est sorti comme par hasard bien. Non, je pense pas. C'est vraiment voulu de Dieu, cette structure dans le bouquin. Alors, les chapitres, mon but en vous montrant ça, c'est déjà de vous donner un point de vue très global sur le livre du Lévitique. Parce que si vous êtes touché par ce message et que vous voulez prendre une décision personnelle dans votre vie de vraiment vous investir en tant que sacrificateur, ben vous avez déjà ce plan global qui va vous aider à la lecture, vous faire comprendre où vous devez aller puiser certaines choses par conviction du Saint-Esprit. Ben, en voyant ça, vous allez dire, ben tiens, la pureté morale, ça m'intéresse. Je vais voir qu'est-ce que je peux aller tirer, puiser de là pour, dans ma vie actuelle, dans ma culture mondaine actuelle, sortir de cette culture un peu plus. Voilà. Et je pense que ça, c'est un outil peut-être très pratique. Pour ceux qui voudraient, on peut faire des photocopies de ce petit truc-là. J'espère que je n'ai pas fait de faute d'orthographe, je n'ai même pas relu. Enfin, soit. Après correction, je pourrais vous le donner. Chapitre 1 à 7. On nous parle des sacrifices rituels. Dans les sacrifices rituels, il y a des choses extraordinaires, des perles précieuses. Il y a 5 sacrifices qui sont décrits par l'Éternel. Il y en a 3 qui sont volontaires, 3 sacrifices qu'on peut faire de manière volontaire, et il y a 2 sacrifices qui sont obligatoires. Donc, une fois qu'on a péché, voilà, ça c'est les sacrifices d'ordre obligatoires. Une fois qu'on a péché, on doit amener un sacrifice pour être pardonné. Il y a la même chose aussi avec le deuxième sacrifice obligatoire, c'est la culpabilité que va créer le péché. Eh bien, quand on est sous une culpabilité, on va devoir sacrifier pour notre culpabilité, afin que notre culpabilité s'en aille. Et là, vous comprenez déjà qu'aujourd'hui, l'ennemi, avec quoi il joue dans nos vies? Il joue avec la culpabilité quand on pêche. Vous devez remettre ça dans le sacrifice de Jésus et dire non, ça c'est la voix de l'accusateur. Je veux pas une culpabilité accusatrice, écrasante, qui va me couper de mon Dieu. Jésus a été sacrifié pour vous soulager de ça. Mais par contre, ce qu'il a fait, il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il dit, ok, tu croules sous un poids de culpabilité parce que tes accusateurs disent que, selon la lettre de la loi, mais moi je te dis, va et ne pêche plus. Et là, ça doit être notre attitude de sacrificateur. Culpabilité, non merci, mais je vais demander la conviction, Saint-Esprit. Donne-moi ta conviction, Saint-Esprit, pour que je ne pêche plus comme je l'ai fait. Jésus a été sacrifié, il n'a pas été sacrifié en vain ou pour qu'on puisse se servir de sa mort à tire-larigot de manière légère et désengagée de notre part. Son sacrifice est précieux, on gaspille pas le sang de Jésus. Et donc, dans cette relation des sacrifices, 3 volontaires, 2 obligatoires, eh bien, on peut, par les volontaires, on peut exprimer tout simplement reconnaissance, dire merci par ces sacrifices volontaires. On apportait une offrande de farine qui allait mettre sur l'autel des sacrifices, qui allait monter vers Dieu, on allait manger un morceau de ce pain, et ainsi de suite. Pour dire merci, reconnaissance, adoration, quand on voulait adorer, on apportait un sacrifice. Être en communion, on apportait des sacrifices de communion. Et les 2 obligatoires, c'est pour demander pardon. J'ai péché, pardon Seigneur, hop, j'apportais ma biquette pour qu'elle soit sacrifiée. Alors, tous les sacrificateurs, ah oui, ça c'était un super commentaire des frères, en fait, de frères messianiques qui habitent ici dans le nord de la France. Ils ont une histoire incroyable, leur communauté est née entre les 2 guerres mondiales. Et entre ces 2 guerres mondiales, il y a des personnes françaises en collaboration avec des juifs autrichiens, français et canadiens, qui se sont retrouvés ici en France entre les 2 guerres mondiales et ils ont lancé ils appellent ça une Keïla, c'est le mot assemblée en hébreu, et ils sont ici dans le nord de la France, je devrais peut-être te donner leur contact. Mais ils ont écrit ceci qui exprime ça très bien. Tous les sacrifices avaient pour objet de soigner la relation personnelle que nous entretenons avec Elohim. Si la relation était bonne, alors la recherche de son maintien s'entretenait par les offrandes volontaires. Si la relation était dégradée à cause d'une faute ou de la culpabilité, la réparation se ferait par le sacrifice. Et donc les 5 sacrifices, c'est à ça qu'ils servent, chapitre 1, 7 du Lévitique. 8 à 10. L'investiture des sacrificateurs. Donc il va y avoir un rituel, on va investir les sacrificateurs, chose très étonnante, mais par le baptême des eaux, par le sang de Jésus qu'on accepte sur nos vies, par une prière de bénédiction de quelqu'un, on devient sacrificateur. Et c'est étonnant de voir qu'il y a tous les parallèles à faire, je l'ai fait dans une étude antérieure, tous les parallèles à faire avec l'accomplissement de ce que Jésus fait au bois. Et là, on comprend qu'il fait de nous des sacrificateurs quand on décide de le suivre. Investiture des sacrificateurs. Il y a la mort des deux fils d'Aaron. Bon. Pourquoi ils sont morts? Ben, en hébreu, on lit qu'ils se sont présentés avec un feu étranger devant la triple sainteté de l'Éternel. Et c'est pas Zeus qui a envoyé un éclair pour les punir. C'est en réalité, comment expliquer? Les écritures en hébreu, elles nous disent littéralement, un feu est sorti de devant Dieu. Donc c'est pas qu'il y a une action, une volonté de Dieu, un feu est sorti devant lui. Et ce feu, c'est le feu de la sainteté. Et comme eux, ils véhiculaient dans leurs mains un feu impur, ben ce feu saint a consommé ce qui était impur. C'est comme ça que notre faute, elle peut être expiée en Jésus, en fait. Et ils ont été frappés par cette sainteté, triple sainteté de l'Éternel, et ils sont morts. C'était pas la volonté de Dieu qu'ils soient morts. Au contraire, la volonté de Dieu, c'est que le pécheur puisse être réconcilié avec lui et vivre déjà en relation avec lui, or qu'ils sont pécheurs et impurs. Ça, c'est sa volonté. Je peux vous aussi vous parler pour vous faire comprendre ça très vite, et on continue. Moïse, quand il s'approche du buisson ardent, l'Éternel lui dit, ôte les sandales de tes pieds, mets-toi face contre terre, parce que si tu tournes tes regards vers moi, tu vas mourir, Moïse, je suis dans ma forme glorieuse, tu tiendras pas dans ton corps de chair. Ben, pensez-vous que si Moïse n'avait pas enlevé ses sandales et qu'il avait dit, oh non, c'est bon, Dieu, t'es mon pote, est-ce que vous pensez que Moïse serait resté en vie? Ben non. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de tuer Moïse, si ce serait arrivé? Ben non. Et ici, avec Nadav et Avihu, c'est exactement la même chose. J'ai lu des commentateurs qui m'ont fait très peur. Ils ont dit, vous voyez comme quoi Dieu est un Dieu distant, il veut pas de nous, patati patata. Or que si Dieu, il a mis déjà tous les sacrifices en place, c'est afin que nous soyons en communion avec lui. Il y a un sacrifice qui s'appelle le sacrifice de communion. Donc comment on peut donner du crédit à ce commentaire quand il y a un sacrifice de communion qui existe? Si Dieu voulait pas qu'on soit en communion avec lui, pourquoi il a donné des prescriptions très précises, très minutieuses pour qu'on soit en communion avec lui? Voilà, il y a conflit d'intérêts. Ce commentaire, pour moi, il peut pas trouver une certaine logique. Maintenant, c'est vrai, Moïse, il avait pas intérêt à déconner quand il était devant le buisson ardent. Mais Dieu l'appelle. Donc c'est qu'il veut avoir cette relation avec l'homme. Même si nous, on est impurs et que lui, il est trois fois saint, mais il veut une relation avec nous. Alors, ça, c'est pour expliquer quand même brièvement l'histoire de Nadav et Avihu. Chapitre 11 à 15, la pureté rituelle. Mais la pureté rituelle, du chapitre 11 à 15, on a différentes règles qui pourraient vous inspirer peut-être aussi dans votre vie au quotidien en tant que sacrificateur. Des règles alimentaires. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais ne judaïse pas, nous, dans notre culture. Je vais dire, ok, peu importe. Mais me dites pas que vous n'avez pas de règles alimentaires. Est-ce que vous mangez du sang? Est-ce que ça vous arrive de boire une bonne coupe de sang? Ben non. Est-ce que vous trouvez que c'est immoral de le faire? Ou que c'est dégoûtant de le faire? Ben oui. Parce que acte 15 nous dit non, pas de sang. Et donc, même dans la Nouvelle Alliance, il y a des règles alimentaires. On ne peut pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça nous mettrait en communion avec les démons. Les faux dieux n'existent pas. Mais ça nous mettrait en communion avec les faux dieux qui se tiennent derrière ces idoles. Paul est clair. Acte est clair, les idoles de côté, acte 15. Donc, vous voyez qu'en tant que sacrificateur, ces règles alimentaires, elles ont du sens. Pas de sang, et puis après, c'est selon les convictions de chacun. Et s'il vous plaît, ne luttez pas contre les convictions personnelles que vous avez reçues. C'est simplement ça que je veux dire. Je ne veux pas mettre un fardeau légaliste ou une loi sur vos épaules. Faites selon les convictions que vous avez dans votre cœur. Point. Parce que lutter contre des convictions ou maintenant se mettre un fardeau religieux, c'est pas le but non plus. Ou sinon, on rate l'appel de Dieu qui veut qu'on vive comme des sacrificateurs pour sortir de Babylone. Et si vous vivez comme des religieux, ben le système religieux fait partie de Babylone l'impur. Donc voilà, il y aura pas d'intérêt. Mais il y a des règles alimentaires, une hygiène alimentaire dans la pureté rituelle, le contact avec des fluides de reproduction. Hier, on en a brièvement parlé pour le couple. la sexualité dans le couple, une sexualité sainte. Ben, quand on est en contact avec des fluides de reproduction, donc par exemple, la femme qui va avoir ces périodes, elle est rendue temporairement, rituellement impure. Et puis, quand c'était fini, elle comptait des jours de purification, elle présentait un sacrifice, elle était purifiée. Eh bien, aujourd'hui, je suis convaincu que ce principe est toujours d'actualité et qu'on est sanctifié par le sacrifice de Jésus. À un certain moment, les Écritures nous disent, on a percé son côté de l'eau et du sang est sorti. Et quel sacrifice on devait accomplir pour être purifié d'une impureté rituelle? On devait prendre de l'eau et du sang et l'asperger sur les... De l'eau et du sang, pas de l'huile et du sang, ça c'est un autre sacrifice, mais de l'eau et du sang. Et moi, un jour, quand je lis la mort de Jésus sur le bois, je vois qu'on perce son côté et on nous dit de l'eau et du sang est sorti. Et là, le Saint-Esprit me dit, voilà, tu vois, le sang purificateur de toutes nos impuretés rituelles. C'est pas une impureté rituelle, c'est pas comparable à un état de péché. Donc j'ai commis un adultère ou je vis dans l'adultère, ça c'est un état de péché. On n'est pas rituellement impur, là on est pécheur. Rituellement impur, c'est quelque chose qui est lié à la chair qu'on a héritée du jardin d'Éden. Point. On attend la deuxième venue du Mashiach pour être libéré de ces choses. La deuxième venue du Messie. Et là on sera libéré une fois pour toutes. Mais en même temps, regardez la grâce de l'Éternel prescrite dans la loi. Et j'aime bien le dire et employer ces mots-là. La grâce de l'Éternel prescrite dans la loi, c'est vous avez hérité des corps déchus depuis la chute du jardin d'Éden, mais je vais instruire un système sacrificiel pour que vous puissiez être en communion avec moi. Malgré la chute du jardin d'Éden et les anges qui ferment le jardin d'Éden avec des épées flamboyantes. Si ça, c'est pas la grâce, ben je sais pas comment on peut définir ça autrement. Vous pouvez venir me voir et m'expliquer si j'ai pas compris, je suis très ouvert pour tout. Vous pouvez venir m'expliquer. Mais pour moi, ça, c'est une grande grâce qui nous a été faite. Chapitre 16 à 17, le Yom Kippour. Et ça, c'est extraordinaire. Dans le sacrifice du Yom Kippour, on sacrifie deux boucs. Le premier, il est sacrifié. On va l'égorger. On va prendre son sang. On va aller dans le lieu très saint. Et le peuple sera pardonné de sa faute. Son sang sert pour l'expiation des péchés. Le deuxième... On va en faire quoi? Le souverain sacrificateur va s'approcher de cette bête, il va lui mettre les mains sur la tête, imposition des mains, c'est là où ça commence avec l'imposition des mains. Il va confesser tout le péché d'Israël et de toute la multitude mixte qui accompagne Israël au désert. Il va confesser la faute de leur péché et il va l'envoyer au désert. Et c'est vraiment une image comme quoi Dieu chasse dans un lieu de mort le péché de son peuple saint. Et il éloigne le péché du camp. Il éloigne le péché du camp. Les péchés du camp. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un épisode intéressant. Jésus va venir. Il y a un sacrificateur, Jean-Baptiste, qui va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et juste après son baptême, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus ? Il va partir 40 jours au désert. Et là, on voit en Jésus... l'accomplissement du bouc émissaire qui s'en va porter le péché du peuple au désert. Et là, par rapport à ce péché, il va être tenté et il va avoir la victoire. Donc là, il va laisser le péché dans sa victoire parce qu'il va répondre à l'ennemi. Et puis, il va réintégrer son camp, le camp de Dieu. Et là, tout le monde va être purifié. Ensuite, quand il présentera dans la maison du Père, si vous lisez le livre aux Hébreux, c'est pas avec le sang des boucs qui s'est présenté dans le lieu saint, le lieu très saint céleste, mais c'est avec son propre sang. Et là, il accomplit encore une fois Yom Kippour. Les deux boucs de Yom Kippour sont accomplis en Jésus. Alors, chapitre 18 à 20, le peuple de Dieu, les sacrificateurs, rendus sacrificateurs par le sang de Jésus, sont appelés à vivre différemment des nations. Vous n'imiterez pas les Égyptiens. Vous n'imiterez pas les Cananéens, vous n'imiterez pas les Français, je n'imiterai pas les Belges, on n'imitera pas les Suisses, les Italiens. On ne pratiquera pas l'abomination qu'ils pratiquent. Et tous ces chapitres nous parlent de différents thèmes. Relations sexuelles pures, on en a parlé hier soir. Justice sociale, tu laisseras un coin de ton champ pour celui qui n'a rien à manger. Une femme veuve et l'orphelin, tu ne l'opprimeras pas. Parce que dans les autres cultures, et c'est intéressant, ces lois, vous les prenez et vous faites des recherches dans les cultures cananéennes, égyptiennes, ce qui se passait avec les veuves et les orphelins. Alors vous voyez, et là vous comprenez pourquoi Dieu demande à son peuple de faire la différence, de comment on traitait ces gens-là. L'aide des faibles, pauvres, veuves et orphelins, je l'ai dit, justice sociale, tu n'auras pas deux EFA pour faire du troc. Donc à l'époque, quand on faisait du marchand, quand on marchandait, il y avait une balance. Je te donne X kilos ou grammes de poivre et tu vas me donner X kilos de blé. C'était du troc, il y avait des mesures. Et ce qui se faisait à l'époque, les gens, ils n'étaient pas bêtes, ils avaient deux sortes de poids. Donc quand ils faisaient du troc avec quelqu'un qu'ils aimaient bien, ils avaient une balance juste. Et quand ils faisaient du troc avec quelqu'un qu'ils n'aimaient pas et qui voulait un peu tirer la balance de leur côté, ils avaient un poids faux. L'Éternel dit, je vous interdis. Et il ordonne, regardez comment ça va loin, il ordonne que les poids soient ajustés par les sacrificateurs. Et les sacrificateurs ajustaient les poids dans le lieu saint. Et l'Éternel, il dit, si tu triches avec tes poids, c'est directement mon trône que tu impliques dans ton troc malhonnête, dans la tromperie. Tu engages mon nom saint. L'Éternel dit, je te frapperai par la mort. Ben, Ananias et Saphira, finalement, on peut se demander si c'est pas un peu ça qui leur est arrivé. Ils ont triché avec les poids. Et voyez, ça c'est un principe scripturaire, mais vous allez me dire, ouais, mais Lucas, c'est bien joli, mais concrètement, comment nous, ça nous concerne? Ben, vous savez, nous, aujourd'hui, on fait du troc aussi. Seulement, on n'a plus des balances, on a de l'argent. Et moi, quand je vais dans un magasin et qu'on me rend trop de monnaie, et que j'ai pris l'article que je savais qu'il coûtait 3,42 €, si je donne 5 euros et qu'on m'en rend 6, je vais dire, là, il y a un souci. Et ça m'est déjà arrivé de faire des kilomètres, parce que en acceptant d'acheter le produit, j'ai accepté le poids du produit en euros. Et quand je m'en rends compte, ça m'est arrivé de faire des kilomètres pour aller restituer. Et là, regardez le témoignage des gens. Mais monsieur, mais vous êtes revenu. Et, ouais, je le fais savoir. Ouais, j'habite à 20 kilomètres, mais je suis revenu parce que je voulais pas vous tromper. Je veux pas qu'il y ait un trou dans votre caisse. Mais c'est extraordinaire. Je dis, c'est ma conscience devant Dieu. Point. Et je dis, je vais être honnête avec vous, et peut-être vous êtes employé, et j'ai pas envie que ça vous retombe dessus, que le patron, il pense que vous voulez de l'argent, et tout ça. Donc, par souci de tout ça, et là, les gens, ils font, ben ouais, quand même. Et là, ils sont touchés, ils sont impactés. Ils sont impactés par une vie sainte de sacrificateur, où aujourd'hui, ben, les gens, ils diraient, un gain malhonnête, ben, tant mieux, c'est dans ma poche. Pas de gain malhonnête, une balance juste. Quand on remplit les contributions, pas de gain malhonnête, une balance juste. C'est ce qui fait la différence. Et vous voyez, ça, c'est comment on peut traduire tous ces principes écrits qui sont selon une lettre qui n'est pas très adaptée à notre temps, mais qui, par l'esprit de la loi, peut trouver encore un accomplissement en nous aujourd'hui. Alors, les conditions requises des sacrificateurs. Les conditions requises, chapitre 21-22. Le plus haut niveau de sainteté morale est exigé, sainteté morale, et de pureté rituelle était demandée. Les sacrificateurs avaient des lois additionnelles aux lois pour tout le peuple, pureté rituelle. Ils ne pouvaient que marier une vierge, ils ne pouvaient pas imiter les faux prêtres. Donc à un certain moment, tu ne te feras pas de place chauve dans tes cheveux, c'est parce que les faux prêtres faisaient ça. Et l'Éternel dit, vous n'allez pas vous associer aux faux prêtres, vous n'allez pas associer mon nom aux faux prêtres. Et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui pour nous d'avoir un culte authentique, dénué du paganisme, et de l'hellénisme qui a impacté nos contrées, en fait, et notre foi. C'était important parce qu'il faut se rendre compte que les sacrificateurs, ils représentent Dieu devant les hommes, et ils représentent les hommes devant Dieu. Donc si eux sont pas à un niveau de pureté morale, de sainteté morale et de sainteté rituelle, ben c'est directement l'image de Dieu qui va être impactée pour les hommes, et l'image des hommes qui va être impactée pour Dieu. Donc ils doivent être vraiment clean. La pureté sert dans les deux sens. Et puis il y a les derniers chapitres, chapitres 23 à 25. Les fêtes rituelles, les sept fêtes de l'Éternel. Alors, faussement appelées les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel. Tout le peuple est appelé à pratiquer les fêtes de l'Éternel. Mais d'ailleurs, qui ne pratique pas Pâques aujourd'hui? C'est pas une fête qui appartient à catholique. Ouais, non, pas les œufs et les poules et les lapins et les cloches de Rome, hein, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le sang de l'agneau et la sortie du désert. Ça, c'est Pessah, Pâques, la Pâque. Je vais pas l'appeler la Pâque juive parce que c'est pas la Pâque juive, c'est la Pâque de l'Éternel. Et voilà comment on peut aussi, en tant que sacrificateur de l'Éternel, par le sang de Jésus, revenir à un modèle d'une Pâque qui est sainte. Parce qu'en fait, les œufs, c'est pour remercier la déesse de la fertilité, la déesse romaine, et ainsi de suite. Donc voilà, je veux dire, c'est des choses qui sont pas saintes devant l'Éternel. Alors, les sept fêtes rituelles, la Pâque, les pains sans levain. Jésus, il a proposé du pain sans levain à ses disciples. Le levain est le symbole du péché. Il y a toute une symbolique derrière ça. Mais quand on pratique cette fête, pendant 7 jours, on s'abstient de manger des pains avec du levain. Et pendant 7 jours, on pense à ce pain de vie qui est sans péché, c'est Jésus. Et on pense à cette sortie d'Égypte à la hâte où on n'a pas eu le temps de faire monter le pain. Donc ça veut dire qu'à ce temps-là, ils n'étaient pas orgueilleux. Parce qu'une pâte qui monte, c'est une pâte orgueilleuse. Puis il y a la fête des premiers fruits, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête du jour des expiations et la fête des tabernacles. Fête des tabernacles qui vous concerne tous. Si je ne m'abuse, dans l'Apocalypse, on verra des gens qui viennent de toute tribu, de toute nation, avec des palmes à la main. Et ça, c'est la fête des tabernacles. On avait des palmes à la main. Et ils sont devant le trône de l'agneau et chantent des cantiques en l'honneur de l'Éternel. C'est une foule innombrable. Et ça, c'est la fête des tabernacles. Voilà, finalement, dans les chapitres 26 et 27, c'est un appel de Moïse au peuple pour que le peuple prête fidélité à l'alliance. C'est un appel pour cette alliance. Obéissance, paix et abondance. Dans le cas de fidélité à l'alliance, paix, abondance dans le pays. Dans le cas d'infidélité à cette alliance de sacrificateurs, désastre et exilé du pays. Et si vous voulez lire l'histoire d'Israël, c'est exactement ça. Quand les sacrificateurs étaient saints et purs, le peuple était saint et pur, un peu comme Gédéon, qui a donné l'impulsion de sainteté à tout un peuple. Et l'infidélité, ils étaient chassés du pays et c'était le désastre et le chaos. Rome est venu raser le temple et en l'an 70, ça a été le plus grand exil que le peuple a connu. Voilà, une vue globale. Donc pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, cet appel à vivre comme un sacrificateur, c'est pour vous aujourd'hui. Si ce message trouve un écho dans votre cœur, on doit se consacrer de la sorte. Le sang de Jésus sert à ça aussi. Et c'est important de rentrer dans cette dimension pour sortir de Babylone. Et ici, je vous ai dépeint dans les grandes lignes avec ce schéma, le contenu. Intéressez-vous à ce contenu et voyez au fur et à mesure quel commandement l'Éternel met dans votre cœur. Tiens, ça, cette histoire de, je sais pas, de troc, ça a vraiment impacté mon cœur. Et je vais être honnête dans ma façon de gagner de l'argent, dans ma façon de l'employer, être honnête, intègre. C'est ça les sacrificateurs d'Éternel. C'est comme ça que nous faisons la différence. Et moi, à chaque fois que j'ai ramené de la monnaie en trop, d'ailleurs, je prie pour qu'ils me rendent de la monnaie en trop. À chaque fois, je vérifie, tu vois. Avant, je comptais jamais la monnaie. Maintenant, je la compte parce que j'espère qu'il y a une erreur comme ça, je peux lui rendre. Et c'est une occasion de témoigner de Dieu. Et c'est là où les gens voient la lumière, ils voient la différence. Et des personnes, chez Léonidas, j'ai acheté des pralines à ma femme, la femme à la caisse, je voyais qu'elle était vraiment émue, en fait. Elle était vraiment touchée, elle dit, mais monsieur, et je voyais que dans son intérieur, ça la travaillait, en fait. Je pense qu'elle était touchée par l'amour de Dieu qui m'avait poussé à, je pense qu'il y a une communication de ça, quoi. C'est vraiment extra, et c'est des bêtes choses, hein, mais c'est comme ça qu'on fait la différence. Voilà une vue globale sur le livre des sacrificateurs. La synthétisation de ce livre a beaucoup d'avantages. Ça a quelques inconvénients. Ben, les avantages, les titres nous permettent de nous rendre compte de son contenu facilement. On encourage, vous savez, j'entends beaucoup ce discours, hein, pour ceux qui reviennent un peu trop légalistes. On encourage, il faut garder les commandements de Dieu, il faut garder les commandements. Ouais, mais d'accord, mais concrètement, certains, ils en font tout un plat. Certains, ils en font raison d'anathème, de séparation, de division. Mais, je veux dire, concrètement, c'est quoi les commandements de Dieu? C'est quoi la sainteté aux yeux de l'Éternel? Et dans le chapitre 19, pureté morale, l'Éternel, il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et moi, je m'attendais à lire des trucs très religieux à faire. Tu prieras X fois par jour, tu feras autant de signes de croix, tu feras autant de patati, tu feras autant de patata. Et finalement, il est écrit, honore ton père et ta mère, sois honnête dans le troc et machin, tchic-tchac. Et je fais, ah, c'est ça pour toi la sainteté? Et l'Éternel me fait, oui, c'est ça, c'est rien de magique, c'est rien de spirituel, au contraire, c'est très physique, très concret, c'est garder mes prescriptions quand vous les avez à cœur. Je dis, waouh, merci Seigneur. Alors, voilà, très concrètement, l'Éternel a déterminé comment nous pouvons être purs. Justice sociale, intégrité sexuelle, c'est tout, tout ça est repris. Et aujourd'hui, j'avais... maintenant, l'inconvénient avec ce genre de truc, c'est que finalement, c'est pas aussi restreint que ça, c'est pas si simple. Quand vous allez lire, parfois, ça va poser des questions, vous cassez la tête, ben, posez-la à l'Éternel. Et si on se croise, je peux essayer, si l'Éternel me fait la grâce. Et puis, c'est un peu vulgarisé. Comme je l'ai mis là, c'est un peu... vulgariser quelque chose, ça veut dire le rendre trop simple par rapport à ce que c'est en réalité, la valeur que ça a. Bon, ma conclusion, c'est le livre demande une étude un peu plus approfondie afin d'en tirer des choses concrètes pour nos vies au quotidien. Et je peux le faire pour ma vie, mais je peux pas le faire pour votre vie à votre place. C'est une démarche de chacun. Et pour cela, il faut faire appel vraiment au principe de l'esprit de la loi. Paul y parle. Il dit on n'est plus sous la lettre de la loi, mais ce qui dirige nos vies, c'est l'esprit de la loi. Et c'est là où, par exemple, le troc est la monnaie en trop. Mais par l'esprit de la loi, au travers de cette loi écrite, la lettre, le troc, okay, ça pourrait être une lettre morte, parce que je dis, je troque plus, tant pis, il n'y a rien pour moi là-dedans. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cette loi? Et par l'esprit de la loi, il me dit, sois honnête dans tes échanges commerciaux. Et j'ai dit, merci Seigneur, c'est clair. Alors, je vais m'arrêter là pour pas être trop long. Merci pour votre écoute. J'avais une dernière petite chose. Justement, quand l'Éternel il a changé ce message, il m'a mis à cœur de faire un appel. Ne comprenez pas mal cet appel. Parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui est pour Betsalel là? Il m'a dit, dans ma relation individuelle, je m'en tiendrai avec eux personnellement pour ceux qui feront la démarche. Mais il me dit, mais communautairement, il dit, invite-les à réinstaurer le calendrier des fêtes de l'Éternel. Et je ne suis pas là pour vous ramener à autre chose, à une autre culte. Je suis là simplement pour vous inviter à rentrer dans les révélations, dans les rendez-vous. Les fêtes sont des moedim. En hébreu, on n'appelle pas ça les fêtes de l'Éternel, on appelle les rendez-vous de l'Éternel. Et je suis pas là pour judaïser ou quoi que ce soit, ne le prenez pas comme ça. Si vous avez des doutes par rapport à ça, vous pouvez venir me voir, on va en parler ouvertement, j'ai aucun souci avec ça. Mais l'Éternel, il dit si vous pouvez réinstaurer dans vos vies les fêtes de l'Éternel, pas les fêtes juives, pas la tradition des hommes, ça nous intéresse pas. J'ai essayé, ça m'a rien apporté dans ma vie. J'ai trouvé la liberté dans les fêtes de l'Éternel. La Pâque juive, alors c'est inspiré de l'Exode, donc oui, ça a des apparences de sainteté, mais c'est que littéral et scripturaire, il n'y a rien de spirituel. Dans la Pâque de l'Éternel, on trouve des réalités spirituelles. Et dans la Pâque de Rome, quelle réalité vous avez trouvé dans des poules qui pondent des œufs en chocolat et des lapins et des cloches volantes? Je ne sais pas ce que vous pouvez trouver là. Mais bon, je veux dire, chacun sa culture. Mais moi, j'ai choisi. Et l'Éternel, il me disait, ce qui est vraiment pour Betsalel, dans leur communauté, c'est vraiment de voir. Eddie nous a invités, Eddie Wallé, je sais bien que vous connaissez, que l'église de Betsalel collabore, ils nous ont invités au mois d'avril à faire avec eux une Pâque, voir comment ça se passe une Pâque un peu. On a eu un temps extraordinaire, un temps de réconciliation avec les frères arabes, d'anciens musulmans qui avaient encore une grosse haine vis-à-vis d'Israël parce que c'est culturel. Et on a été, Dieu l'a fait tomber des barrières par ce calendrier des fêtes extraordinaires. Et c'est très important pour la prochaine venue du Messie. Si vous regardez la première venue du Messie, tout est organisé autour de ce calendrier de l'Éternel, des fêtes de l'Éternel. C'est pendant la Pâque de l'Éternel à l'époque qu'il est mort, ressuscité, il accomplit Yom Kippour en même temps et ainsi de suite. Donc sa deuxième venue, c'est aussi pour ça que c'est important de réinstaurer ce calendrier. Sa deuxième venue, il y a une fête, elle s'appelle la fête des trompettes. Qu'est-ce qu'on lit dans l'Apocalypse? Au son de la trompette, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et si vous passez à côté de ces réalités spirituelles des fêtes de l'Éternel, on peut, il ne nous laisse pas orphelins, mais on peut louper des choses avec la deuxième venue du Messie. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et mon cœur, c'est vraiment que vous ne loupez rien et on peut voir comment dans un futur, je sais pas, vraiment je mets ça sur vos cœurs, faut pas forcément y répondre positivement cette année-ci, peut-être dans 3 ans vous allez dire, ah on a eu un signe de Dieu comme quoi, attendez une confirmation de la part de l'Éternel, et voyez, et on pourra collaborer encore ensemble. Pour moi c'est toujours un plaisir de venir ici parmi vous, d'être en relation avec Bruno qui me bénit tellement aussi en retour, ainsi que toute l'Assemblée ici. À chaque fois c'est très riche et très bénissant pour tout à chacun, et je pense que c'est dans nos liens de fraternel, nos connexions fraternelles et connexions divines, qu'on va tenir bon dans la fin des temps et qu'on va se serrer les coudes pour aller de l'avant, quoi. Voilà, j'ai fini. L'Éternel vous bénisse.